Bienvenue sur BFM Lyon, émission spéciale donc depuis la maison d'Izieux pour ces 4 jours de commémoration sur la rafle, 80 ans de la rafle des enfants d'Izieux avec moi pour m'accompagner Lionel Favreau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Hugo.
Directeur de la rédaction de Mac de Lyon et nos trois invités, Alain Jakubowicz, merci d'être avec nous, avocat notamment des parties civiles lors du procès de Klaus Barbie, administrateur de la maison des enfants d'Izieux. Thierry Philippe, bonsoir. Président de la maison d'Izieux et Philippe Quintin, professeur d'histoire au lycée du Bugey et ancien membre du service pédagogique de la maison d'Izieux. D'abord, je voudrais qu'on commence, messieurs, avec donc ce chiffre 80 ans, cette date. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, d'abord peut-être Thierry Philippe?
D'abord, elle évoque de l'émotion. C'est émouvant parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ces événements, ces 4 jours. C'est émouvant aussi parce que finalement, ces enfants, on a voulu les faire disparaître. On a voulu qu'ils n'existent plus. Ils sont là, ils existent. On connaît tous deux. On a 43 des 44 photos. On a le trajet de chacun des enfants. On a des lettres. On a l'histoire de leur famille. Finalement, ils sont vivants. Et c'est l'échec du bourreau et de ceux qui sont venus le 6 avril 44.
Alain Jakubowicz, Thierry Philippe disait l'année dernière que ça serait un triste anniversaire cette année. Mais c'est toujours un anniversaire nécessaire malgré tout.
Écoutez, c'est un anniversaire qui malheureusement est aussi au cœur de l'actualité. Les enfants, voilà. Le bourreau frappe toujours les enfants. Et je crois qu'effectivement, on est dans l'actualité. Et comme le disait notre président Thierry Philippe, c'est une splendide victoire en réalité. C'est la victoire de la vie sur la mort. Quand on arrive ici, quand on voit ce paysage, quand on voit cette maison, ils sont là les enfants. Ils sont là grâce au travail de Serge et Béat Klarsfeld, grâce aux équipes pédagogiques du musée mémorial. Voilà, je veux dire qu'on ne tue pas la mémoire des enfants. Et je crois que c'est 80 ans, c'est cela que ça signifie.
Oui, parce que Philippe Quintin, un mot quand même, vous l'homme d'histoire, ici c'est un lieu très particulier, parce que finalement il y a toutes les dimensions, il y a la rafle, il y a l'histoire, il y a aussi le pénal évidemment dont on se souvient, on a vu Serge et Béat Klarsfeld tout à l'heure, et puis aujourd'hui il y a le devoir de mémoire.
Alors, on peut parler de devoir de mémoire, pourquoi pas, mais je pense qu'au-delà, notamment au cours de la cérémonie à laquelle on a assisté, ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette mémoire, en tout cas, elle est vivante. Elle est portée par des jeunes. Et ça me semble le plus important. Je rajouterai à votre définition en trois expressions de la maison d'Izieux, c'était aussi un lieu d'éducation. C'est un peu étonnant. Je crois que ça se vérifie encore de nos jours dans certains conflits qui se déroulent. Les adultes tiennent toujours, même dans les plus grandes difficultés, à continuer à éduquer parce que l'éducation, c'est la vie. Donc ici, on perpétue la vie d'une certaine manière.
Merci. Lionel.
Anna Jovikovic, cette tragédie occupe une place particulière dans la mémoire collective?
Oui, depuis le procès Barbie. Il faut quand même rappeler ce que disait Sabine Zlatin. Au lendemain de la guerre, on ne parle pas des enfants d'Izieux. On découvre la maison d'Izieux et le drame des enfants d'Izieux avec l'arrivée de Klaus Barbie à Lyon en 1983. C'était une mémoire oubliée, c'est une mémoire ravivée. On a aussi gommé la qualité, entre guillemets, des enfants. C'était des enfants exterminés. Non, c'était des enfants juifs qui ont été exterminés parce qu'ils étaient juifs. Donc, effectivement, il y a un avant et il y a un après. Et puis, surtout, il y a le procès. Ce procès qui est prodigieux. J'y étais, cette salle d'audience. J'ai suivi ensuite le procès Barbie, le procès Touvier, le procès Papon, dans des salles d'assises classiques, c'est-à-dire une centaine de personnes. Là, ce sont des milliers de gens. Et je suis très heureux de ce qu'a dit M. Quintin, c'est qu'il y avait des classes qui venaient tous les jours, on voyait des milliers d'enfants. Moi, j'en ai retrouvé après, certains sont devenus professeurs d'histoire. On a fait, j'emploie une expression qui n'est pas très jolie, je reconnais, on a fait rentrer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au Café du Commerce. C'est-à-dire que dans tous les foyers, les jeunes sont allés voir leurs parents, leurs grands-parents, et toi, t'étais quoi pendant cette période? Et on a découvert la définition même du crime contre l'humanité. C'était une notion abstraite. Et avec le témoignage des femmes au procès Barbie, on a touché du doigt la réalité de la déportation, ce qu'est fondamentalement, étymologiquement, le crime contre l'humanité. Donc bien sûr, il y a un avant et un après. Et il y a surtout cette maison aujourd'hui, ces lieux de mémoire, ils ne sont pas si nombreux dans notre pays, qui effectivement sont des lieux de vie, comme cela vient d'être dit excellemment.
Philippe Quintin, est-ce qu'il y a eu un risque d'oubli de cette tragédie, puisqu'il y a eu des commémorations au niveau local tout de suite après la guerre, et en même temps, la présence des grandes institutions, c'est plutôt les années 80, comme vient de le souligner Alain Jakubowicz. Donc sur cette question du risque d'oubli, quelle est votre position d'historien ?
Oh, je ne vais pas vous... Enfin, comme le dit Maître Jakubowicz, la grande commémoration inaugurale, bon, c'est 1946, mais après, rien. Il faut attendre, comme M. Jakubowicz le disait, le procès Barbie qui fait redécouvrir aux Français et au-delà de la France. Hein. C'est un procès tellement médiatisé. Cette histoire des enfants des yeux et cette question de l'enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1 500 000 enfants qui ont disparu pour ce qu'ils étaient à l'époque. Donc il faut attendre le procès Barbie et la création du mémorial pour que... déjà, localement, les gens redécouvrent cette histoire qui était vraiment oubliée. La mémoire, donc, peut être faite d'oubli, de phases d'oubli et de redécouverte, de renaissance. C'est pour ça qu'il faut la travailler, la mémoire.
Thierry Philippe, en tant que président du mémorial de la Maison d'Izieux, vous devez chaque année préparer un discours. Est-ce qu'il y avait une émotion particulière cette année et quels étaient un peu les points clés ?
Bah, l'émotion, elle est tous les ans. C'est vrai que c'est... Ça fait longtemps que je suis président, c'est difficile de... faire un discours tous les ans en essayant d'exprimer une émotion différente. Mais comme l'a très bien dit Alain Jakubowicz, l'actualité, malheureusement, incite à dire des choses différentes. Donc les messages que j'ai passés aujourd'hui et que je passerai demain, je passerai samedi en présence de la ministre allemande de la Culture et puis la grande manifestation de Ronald de dimanche, c'est un message sur la vie des enfants, sur le drame du 6 avril sur la justice avec le procès Barbie, mais aussi sur tout ce travail qui est fait après. Et comme l'a très bien dit le président de la région Rhône-Alpes tout à l'heure, on a besoin d'Izieux, malheureusement. On a malheureusement besoin d'Izieux. Et dimanche, on aura une grande manifestation qui va être 6 mois exactement après le 7 octobre, après un pogrom qui a eu lieu alors que tout le monde pensait qu'on ne reverrait jamais ça. Et ben oui, si on revoit des gens qui sont assassinés uniquement parce qu'ils sont juifs. Et donc on a besoin d'éducation, comme vous l'avez très bien dit. Je crois qu'on est d'abord un lieu d'éducation. Et donc dans mon message, il y a d'abord ça. Nous, on est là pour expliquer, pour faire connaître. Parce que déjà, quand on connaît les choses, on a un autre regard. On a des enfants qui viennent des MJC, des centres sociaux, des quartiers dits difficiles. Ça se passe toujours très bien. Ils apprennent des choses qu'ils ne savaient pas. Ils apprennent qu'on peut mettre une kippa, comme on peut aller à la mosquée. On peut mettre une mezouza devant sa porte. On peut aller à l'église. On peut croire ou ne pas croire. On leur explique la laïcité. On leur explique finalement liberté, égalité, fraternité. Et comme vous l'avez très bien dit, on est un lieu d'éducation. Et ce qui est extraordinaire chez ces enfants, c'est qu'ils chantaient la France. Ils chantaient la France alors que la majorité d'entre eux n'étaient pas français. Ils chantaient la France. Ils sont partis en chantant « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Donc ces enfants qui venaient du monde entier, qui étaient éduqués par un professeur de la République française, qui était devenu français, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire aussi. Et liberté, égalité, fraternité.
Et justement, avec cette exposition, et c'était des enfants, c'est ce cri du cœur hein, de Sabine Zlatin, notamment au procès de 87. Finalement, l'idée, c'est de redonner aussi une humanité à ces enfants pour qui n'en avaient plus aux yeux de notamment de Klaus Barbie.
Écoutez, le problème de ces génocides, des génocides, et pas seulement de ce génocide, c'est qu'il y a tant de victimes qu'il n'y a plus de victimes. Il y a des chiffres astronomiques. 6 millions de morts, 1,5 million d'enfants, 11 000 enfants français. Et en fait, tout ça a été possible, il faut le dire, par le travail de fourmis de Serge et Beat Klarsfeld qui ont redonné un nom. Cette maison, c'est les lettres, c'est l'humanité, c'est l'histoire de ces enfants et des adultes aussi qui avaient une vie avant. Qui étaient les enfants qui viennent aujourd'hui visiter le musée mémorial. Donc c'est la vie, ce lieu, c'est la vie, c'est l'éducation. Et je crois que c'est la signature très particulière du musée mémorial d'Izieux. Vous savez, j'ai été, quand j'étais élu de la ville de Lyon, le fondateur, aux côtés de Michel Noir bien sûr, du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, qui est très cher à mon cœur, très cher à mon cœur. Mais Izieux, c'est autre chose.
Vous parliez de Sabine Zlatin tout à l'heure et du couple Zlatin, évidemment, à l'origine. Miron, son mari qui avait été raflé le 6 avril. Quel souvenir vous gardez de Sabine qui a vu 2 ans pendant ce mémorial et qui est décédée 2 ans après sa création de mémoire en 96?
Sabine Zlatin, c'était une rebelle. Au sens, avec son accent, avec eux. Elle pouvait être extrêmement violente. Vous savez, ce qu'elle a dit sur la communauté juive française et notamment la communauté juive lyonnaise est absolument terrible. Vous découvrez maintenant les enfants d'Isieux, mais vous avez toujours oublié. Et elle avait raison. C'était une femme qui avait son franc-parler, qui était capable de dire au président de la République que ça n'allait pas, qui était incroyable, mais surtout, c'était la mère des enfants d'Isieux. Et elle a vécu avec le spectre de ses enfants. Elle se sentait coupable d'avoir été absente ce jour-là. Souvenez-vous qu'elle n'a pas seulement perdu 44 enfants, elle a perdu son mari, elle a perdu ses éducateurs, et notamment cette incroyable Léa Feldblum, qui était la maman de procuration de ses enfants. Et puisqu'on parle d'éducation, moi j'ai toujours une pensée. Oui, mais elle l'a perdu en réalité. Mais c'est un autre débat, on pourra en reparler. En revanche, et je tiens à le souligner parce que M. Quintin est finalement le digne successeur de cela, c'est cette institutrice que j'ai eu l'honneur et la chance de connaître, est morte il n'y a pas très longtemps en fait, qui est venue témoigner au procès Barbie et qui faisait la route de Belley en vélo pour venir. Et ça, je veux dire, ça c'est la France. Voilà. Et c'est ce que disait notre président. Isieux, ça incarne liberté, égalité, fraternité.
Lionel.
Donc là, Alain Jacobovitch, vous avez fait référence à Gabrielle Perrier, l'institutrice à qui Dominique Missika a consacré un remarquable ouvrage. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs qui vous ont marqué de ce procès Barbie? Puisqu'on se rappelle aussi qu'on a retrouvé l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ce chef de la Gestapo à Lyon qui s'enfuit en Bolivie, qui, sous un faux nom, Klaus Altman, qui est extradé de là-bas sous des conditions un peu aventurières grâce à la persévérance du couple Karsfeld et de ces mamans des enfants d'Isieux. Est-ce qu'il y a d'autres moments marquants qui vous...
Écoutez, si vous avez l'après-midi pour en parler, je peux vous en parler. Mais ce qu'il y a de marquant, c'est d'abord l'arrivée de Barbie dans le box et ses yeux d'un bleu d'acier qui fait comprendre, jeune avocat que je suis alors, qu'on peut reconnaître un homme au bout de 40 ans ou de 50 ans. Et puis, c'est le témoignage des femmes, encore une fois, qui dans notre société judéo-chrétienne, l'atteinte à l'intimité, à la pudeur, à la... Voilà, raser des femmes, c'est le crime contre l'humanité. Et ce qu'elles ont raconté au cours de ce procès, qu'elles n'avaient jamais raconté pour la plupart à leurs enfants qui étaient dans la salle, c'est extraordinaire. Et puis surtout, puisqu'on est à Isieux, pour moi, il y a la stigmatisation du crime contre l'humanité, c'est l'histoire de René Vuchère. Cet enfant de Brégnier-Cordon, qui avait été placé par son papa parce que c'était les vacances de Pâques. Et ce monsieur a placé ses enfants, a demandé qu'on l'accueille à la colonie. Il n'était pas juif, le petit Vuchère. Et il était là au moment où Barbie arrive avec ses sbires et de la rafle. Et vous connaissez la route, on descend dans ces virages et on arrive à Brégnier-Cordon. Et là, évidemment, tout le village est dehors. Enfin, vous imaginez la Gestapo à Brégnier-Cordon, avec ses camions bâchés, ses enfants qui chantent, vous n'aurez pas... Et là, le village reconnaît le petit Vuchère. Et on dit, mais il n'est pas juif! Il n'est pas juif! Il descend du camion. Sa vie est sauve. Il vient témoigner au procès Barbie. Les autres sont morts dans la fumée d'Auschwitz. Tout est dit. Tout est dit de la définition même du crime contre l'humanité.
Alors, au sein du mémorial, il y a des témoignages extraits de ce fameux procès, y compris l'ouvrier agricole qui, comme les paysans du secteur, assiste à l'enlèvement et qui dit est-ce que ces nazis avaient des enfants? Donc, c'est aussi s'attaquer aux enfants, comme vous le disiez, cette mémoire des enfants qui a été présente tout au long de ce procès Barbie.
Ce témoignage de cet homme au visage ravagé, frappé à coups de pelle par... c'était le factotum du village et qui est celui qui habitait là, qui habitait surtout dehors d'ailleurs, et qui est celui qui dit avoir vu Klaus Barbie au cours de la rafle et qui termine son témoignage au procès en pleurs. Parce que évidemment, il y avait cet homme qui n'avait pas eu d'éducation, en tout cas pas de culture, mais qui avait une telle humanité. Et en face, vous aviez Jacques Vergès. Et Jacques Vergès l'a allumé, il n'y a pas d'autre terme. Et cet homme a fini en pleurs, en pensant qu'il avait coulé le procès Barbie parce qu'il n'avait pas été à l'auteur de Jacques Vergès. Et c'était un procès dans le procès. Et c'était d'une humanité infinie. cet homme qui est l'anonyme de l'histoire, en fait, est un homme merveilleux et en fait un grand homme.
Alors, messieurs, on parlait d'éducation tout à l'heure avec vous, notamment Philippe Quintin. Est-ce que, vis-à-vis de la période actuelle, est-ce que c'est encore plus compliqué de parler des sujets dont on parle aujourd'hui ?
Écoutez, j'ai donné une très petite et modeste définition tout à l'heure de l'éducation. L'éducation, c'est la vie, mais je crois que aussi l'éducation, c'est la résistance. Depuis les origines de l'école, c'est toujours résister contre des forces qui semblent dangereuses, impressionnantes, l'ignorance, le goût de préférer peut-être apprécier les apparences plutôt que la réalité, la vérité, voilà. L'école de Jules Ferry, si on regarde bien, elle était aussi une école de la résistance. Il s'agissait à l'époque de sortir des enfants du monde du travail et de les sortir de l'analphabétisme. Donc aujourd'hui, c'est encore une forme de résistance. Je crois que quand on est éducateur, certes, c'est pas facile, mais il faut avoir une forme de courage, de conviction. Et le plus beau cadeau que les jeunes peuvent nous rendre, et ils nous en rendent beaucoup, croyez-moi, c'est, je reviens à ce que nous avons vu tout à l'heure. Ils s'emparent d'un enseignement, d'une réflexion qui a été proposée par leurs enseignants, et ils en font quelque chose par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Voilà. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir des difficultés, je ne vais pas les nier, tout le monde sait, connaît les actualités, je crois qu'il faut avoir le courage de la résistance.
Thierry Philippe, justement, associer les enfants comme c'est fait chaque année à Izieux, et avec ces mots tout à l'heure de Laurent Wauquiez qui disait « le combat est encore devant nous », autrement dit pour les jeunes générations et les générations qui viennent, vous êtes d'accord avec ça ?
Bien sûr, le combat c'est tous les jours, mais il ne faut pas désespérer. On était finalement très inquiets après 7 octobre. Je vous ai dit tout à l'heure que ces enfants, ils viennent de quartiers dissensibles, ils ne sont pas juifs du tout. Et pourtant, ils viennent. Déjà, c'est la première information. Ils viennent exactement comme avant. Et ils se tiennent bien exactement comme avant. Ils écoutent. Et donc, c'est un lieu du respect. C'est un lieu où on peut entendre. C'est un lieu où on peut se faire éduquer au sens noble du terme, et c'est un lieu finalement où c'est la paix et le respect des uns et des autres qui dominent, y compris dans cette période difficile, et pour moi c'est un signe d'espoir absolument majeur. Alors je ne sais pas ce que ça donnera quand ils rentreront chez eux, mais on plante des petites graines. Je pense que de temps en temps, il y a des arbres qui poussent.
Oui, parce que vous faisiez tout à l'heure référence à cette hausse, cette recrudescence des actes antisémites, plus de 1000% depuis le mois d'octobre. Quel regard vous portez là-dessus, Alain Jakubowicz ?
Écoutez, c'est évidemment...
Vous qui avez pris la parole, notamment, vous aviez écrit un texte aux Français pour leur dire qu'il faut que tout le monde soit solidaire des Juifs de France.
Bien sûr, c'est notre conception de la République, mais qui est en danger ? Notre laïcité est en danger. Regardez cette gamine qui se fait massacrer alors qu'elle est elle-même musulmane à la sortie de l'école parce qu'elle n'est pas dans les bons codes. Mais voyons les choses optimistes. Enfin, les textes de ces gamins, pardon, de ces jeunes gens aujourd'hui, c'était époustouflant. Je ne sais pas si vous les avez écoutés, on devrait les publier. Ils sont d'une poésie, d'une actualité, d'une richesse extraordinaire. Je me souviens ici, et merci à l'équipe pédagogique d'Izieux, un jour j'ai entendu des élèves de Belay chanter en yiddish. Je veux dire, pour moi, ça parle, quoi. C'est faire vivre une langue morte. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. Alors, bien sûr qu'il y a les faces noires, mais nous, ici, à Izieux, c'est la lumière. C'est la lumière. On n'ignore pas, évidemment, ce qui se passe autour, bien sûr. Mais on est le village gaulois d'Astérix. Voilà. Celui qui résiste, oui, effectivement. Et celui, effectivement, qui est le message d'espoir. Si on n'est pas là, franchement, qu'est-ce qui va rester ?
Thierry Philippe ?
Oui, un mot pour dire que c'est aussi un lieu de réconciliation. On a depuis le début un jeune Allemand qui nous accompagne tout le temps. Simone Veil est venue plusieurs fois et a prêché tout le temps pour cette... D'ailleurs, elle disait, il ne faut pas oublier, mais il faut reconstruire. Et nous allons accueillir la ministre de la Culture allemande, qui est déjà venue lorsqu'elle était vice-présidente du Parlement européen. Et je crois que cette réconciliation franco-allemande, c'est quelque chose de très important, parce que ces enfants, je l'ai dit tout à l'heure, c'était des enfants européens. C'est une histoire européenne. Et l'Europe, ça peut être aussi ça, la façon de ce peuple qui s'est battu pendant des années, de nombreuses fois. Il a réussi à se réconcilier. Et nous, ici, on est aussi un lieu de la réconciliation, un endroit où, finalement, des gens qui ont fait des horreurs partagent ensemble le souvenir et partagent ensemble la reconstruction. Ça, c'est important.
Vous savez, la réconciliation dont parle à juste titre notre président, elle est avant même la naissance d'Izieux. Et c'est Serge et Beate Klarsfeld. Ils incarnent la réconciliation. Le père de Beate Klarsfeld était dans l'armée allemande. Le père de Serge Klarsfeld a été déporté et est mort en déportation. Et voilà ce couple qui se forme sur un quai de métro parisien et qui incarne l'espoir de la réconciliation franco-allemande. C'est prodigieux. Et Izieux prolonge cela.
Ça doit être un message, cette réconciliation entre bourreaux et victimes, un message d'espoir pour, au vu de la période actuelle.
D'abord, de ne pas confondre les concepts. D'abord, ce sont les nazis qui ont commis ça, ce n'est pas les Allemands. Je pense qu'on doit commencer par ça. Hein, l'Allemagne d'aujourd'hui n'a rigoureusement rien à voir. Bien sûr qu'il y a des jeunes gens. Vous savez, je suis lyonnais, à Lyon, ou plutôt à Villeurbanne, il y a une synagogue qui a été construite par des jeunes Allemands dans les années 60-70. Un cimetière qui a été construit. Parce qu'ils ne se sentaient pas responsables. Mais en fait, ils considéraient qu'effectivement, ils devaient participer à cette reconstruction de la communauté juive d'Europe. Voilà. Eh bien, il y a des beaux signes, il y a des beaux gestes. Ils sont trop peu nombreux, évidemment. Mais ne les oublions pas, parce qu'autrement, on finira par désespérer.
Lionel.
Philippe Quintin, puisqu'on parle de face noire, de réconciliation, est-ce que ce n'est pas aussi le devoir de mémoire, l'occasion de se poser la responsabilité de l'État français par le régime de Vichy? Dans ce mémorial, il y a un document qui rappelle que cette partie de l'Ain a été un moment sous occupation italienne et non pas allemande, et que les Italiens procédaient à moins de rafles. Il y a même un document assez troublant d'un officier italien qui demande aux forces de l'ordre françaises de procéder à moins d'arrestations et d'en référer à lui. Donc est-ce que c'est aussi une question qui a souvent été très sensible? Est-ce qu'on a approfondi ce devoir de mémoire sur cette question?
Alors la responsabilité en tout cas de l'État français, régime dit de Vichy, la problématique est réglée. Elle a été réglée par le président Chirac, qui est le premier président de la Ve République à reconnaître officiellement, c'était à Paris, devant une plaque commémorative à la rafle du Veldiv, la responsabilité de l'État français. Et il avait même rajouté, ce qui me semble important, l'implication de certains Français. Voilà, voilà, nous sommes tous, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, c'est long de devenir un être humain, responsables. Ce qui me semble, si vous me permettez, un mémorial comme celui-ci, pour un citoyen, pour une personne qui s'intéresse un peu aux choses. Moi, j'ai toujours considéré que les mémoriaux, comme la Maison d'Izieux, c'est comme un phare. Ouais. D'ailleurs, il fut une époque, au lendemain de la Première Guerre mondiale, où on construisait des mémoriaux comme des phares, avec une grande tour et de la lumière au sommet. C'est ça, un mémorial. C'est un phare. Il alerte des dangers. Ça peut paraître très modeste, parce que face au phare, il y a un océan. Mais il faut être pugnace, il faut être résistant, il faut avoir de la conviction, je crois. Et ce qui me rassure personnellement, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de voir des jeunes s'exprimer librement. Ici, c'est libre. La parole est libre. Et d'une manière magnifique, je suis tout à fait d'accord avec messieurs. On connaît Klaus Barbie. Et quand on fait l'effort de venir ici, ben on va connaître Meyer Boulka, Maurice Gerhenstein. Et ça, c'est de la justice. Les crimes contre l'humanité, les crimes de masse, il ne faut jamais oublier, comme vous le disiez, ce sont des masses de crimes. Distinguer des victimes, retenir quelquefois leur nom, se positionner devant une plaque, ça n'est pas un geste anodin, même si on porte un regard un peu rapide sur des noms. Je trouve, moi, que c'est un geste militant. C'est dire le monde que l'on veut et celui qu'on ne veut pas. Ça me semble très important. Et je pense que les jeunes le sentent, ça. Quelle que soit, je vous assure, leur origine sociale, origine géographique, ça leur parle, ça. Mais il faut leur parler. Il faut leur faire confiance et il faut faire appel à leur responsabilité.
Thierry Philippe, vous voulez dire quelque chose ?
Oui, juste, il y a un mot qu'on n'a pas dit dans le phare, qu'il faut quand même dire, c'est que partout où il y a des bourreaux, il y a des justes. Et ici, il y a eu des justes autour de nous. On a parlé du Chambon-sur-Lignon ce matin, et il y a eu des justes qui ont sauvé beaucoup d'enfants. Et si le nombre que vous avez cité tous les deux montre que finalement le nombre d'enfants français est relativement faible par rapport à l'ensemble des enfants qui ont été martyrisés, et ben c'est parce qu'il y a eu beaucoup plus de justes en France. Et il faut aussi mettre ça dans l'explication aux enfants. Et là où il y a des bourreaux, il y a toujours des justes. Et tout le monde doit se poser la question, qu'est-ce que je ferais moi si ça arrivait de nouveau? Est-ce que je serais du côté des justes ou est-ce que je serais du côté des bourreaux?
Et parce qu'on oublie aussi souvent de dire sur les yeux, enfin ce qu'on entend moins, c'est qu'il y a quand même eu une soixantaine d'enfants sauvés.
61 enfants sauvés parce qu'ils ont eu la chance de ne pas être là ce jour-là. Il y en a un qui a pu s'échapper. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important parce que finalement, beaucoup des témoignages que nous avons aujourd'hui, nous avons grâce à ces enfants. Tous ces témoignages sont enregistrés, ils font partie de l'histoire.
Et plus le 61. Les justes dans l'Ain, bon, il y en a qui ont reçu officiellement la médaille des justes, mais il y a beaucoup plus de gens humbles, un intervenant en a parlé tout à l'heure, humbles, qui ont caché chez eux des enfants et qui ont été sauvés. Je vous signale que dans le village d'Izieux, une petite fille, qui était une sœur très jeune d'un des enfants qui a été raflé, elle, à 200 mètres de distance, elle a été sauvée. Je crois que les jeunes qui vivent en tout cas dans ce lieu, ce territoire, il faut bien leur dire qu'ils n'ont pas à avoir honte de leurs ancêtres. La plupart d'entre eux se sont très bien comportés. Voilà, ça me semble important.
Et ont aidé, oui.
Une dernière question pour vous, Alain Jacquet-Ovitz. Quel message il faut porter désormais, notamment quand on parle du contexte, évidemment?
Venez à Izieux. Venez. Il faut venir pour comprendre. C'est absolument indispensable. Et j'en appelle pas seulement à l'éducation nationale, mais aux familles, aux parents qui viennent régulièrement à Izieux. Voilà, parler, montrer. Et puis surtout, préparer cette visite. On ne vient pas à Izieux comme ça. C'est pas, bah tiens, il y a un panneau, j'y vais. Non, ça se prépare et il y a ici des gens qui accompagnent ces visites, qui les expliquent, qui les documentent. Encore une fois, moi j'aime beaucoup l'image du phare qui vient d'être citée. C'est d'une certaine façon rentrer en résistance. Un dernier mot quand même, et j'ai vu que M. Quintin avait un petit peu tiqué sur ce mot. Moi je le ferai encore plus. Oublions le devoir de mémoire. Hein, la mémoire, c'est pas un devoir. Ça ne peut pas être un devoir. Alors ça a été une mode, effectivement, de parler. Non, pas du tout. C'est pas pédagogique, un devoir. Si vous parlez d'un devoir à un enfant, déjà, il vous dira, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc on doit changer la terminologie. On doit changer ces commémorations. Et c'est ça qui est merveilleux à Izieux. Il n'y a aucune autre commémoration telle que celle d'Izieux qui associe les jeunes. Généralement, c'est les anciens combattants avec les porte-drapeaux. Eh bien voilà, venez à Izieux et vous allez participer à l'histoire.
Voilà, on finira sur ces mots. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Lionel. Merci à vous de nous avoir suivis.
Merci, Hugo.
Et on continue donc sur BFM Lyon. L'actualité se poursuit.